partie IV, une assemblée fut convoquée en ce lieu, composée d'un nombre égal de représentants de la province et des territoires. Elle n'était pas formée de membres élus à cet effet, mais de tout homme libre qui choisissait d'y assister. La session ne dura que 3 jours, et pourtant une législation d'une grande importance pour les colons y fut adoptée. 1. Une loi fut adoptée pour l'union de la province et des territoires. 2. Une loi visant à naturaliser les Hollandais, les Suédoises et les autres étrangers résidant alors dans la province et les territoires. 3. Moyennant quelques modifications et ajouts, les lois convenues en Angleterre furent acceptées et confirmées. On comprend que ces lois furent principalement l'œuvre de William Penn et qu'elles révèlent une inquiétude particulière de préserver intacts les droits de la conscience et de maintenir une saine moralité dans cette communauté en croissance. Le préambule était rédigé en ces termes. Tandis que la gloire de Dieu Tout-Puissant et le bien de l'humanité sont la raison et la fin du gouvernement, et que par conséquent, le gouvernement lui-même est une précieuse ordonnance de Dieu, et attendu qu'il est principalement souhaité et entendu par le propriétaire, le gouverneur et les hommes libres de la province de Pennsylvanie et des territoires qui en dépendent, d'édicter et d'établir des lois qui préserveront au mieux la véritable liberté chrétienne et civile, en opposition à toute pratique non chrétienne, libertine et injuste. La première de ces lois avait la teneur suivante. Puissant étant le Seigneur de la conscience, le Père des Lumières, et l'auteur aussi bien que l'objet de toute connaissance, foi et adoration divine, lui seul pouvant éclairer l'esprit et convaincre l'intelligence des hommes du respect dû à sa souveraineté sur les âmes du genre humain, il est décrété qu'aucune personne résidant maintenant ou à l'avenir dans cette province, qui confessera un seul Dieu tout-puissant comme créateur, soutien et gouverneur du monde, et professera être obligé en conscience de vivre paisiblement et justement sous le goût. Et si quelqu'un abuse ou tourne en dérision un autre en raison de sa croyance ou pratique religieuse différente, il sera tenu pour perturbateur de la paix et puni en conséquence. Il était exigé que les agents du gouvernement fussent des personnes professant la foi en Jésus-Christ et n'ayant pas été reconnus coupables d'une conduite débauchée ou malhonnête. Les vices scandaleux de toute espèce étaient interdits et des dispositions furent prises pour former les enfants à un métier afin de prévenir la mendicité et la paupérisation. Dans le code pénal alors établi, on introduisit une disposition qui, auparavant, n'avait été que peu prise en considération dans l'administration de la justice. La réforme des criminels, autant que la dissuasion d'autrui de commettre des crimes, fut considérée comme un objectif important. Aussi exigea-t-on que les prisons soient regardées comme des ateliers où les délinquants pourraient être employés avec assiduité, sobriété et moralité. On y exemptait de la peine de mort environ 200 infractions que le droit anglais punissait de mort, en réservant la peine capitale au seul meurtre volontaire. Une clause fut ajoutée peu après, sous l'influence, pense-t-on, du propriétaire qui abolit, selon le droit anglais, le droit d'aînesse tous les biens allant au fils aîné, en attribuant les biens d'une personne morte sans testament à l'époux et aux enfants mesures conformes à ses vues de justice et au bien-être des individus et de la société, et qui devait aussi donner de la stabilité au gouvernement républicain qu'il souhaitait établir, en favorisant l'égalité des positions sociales et la répartition des richesses. Une loi fut également adoptée lors de la première réunion du Conseil provincial, prévoyant la présence de 3 conciliateurs comme arbitres dans chaque tribunal de comté, afin de régler les différends entre particuliers. Le juge Shorswood, de Philadelphie, éminente autorité en droit, déclare, dans un discours devant la Société historique de cette ville, « Penn avait bien étudié la science du gouvernement et des lois, bien qu'il ne fût pas avocat de profession. Il tirait ses premiers principes en la matière de la source la plus autorisée. Il soutenait que « la gloire de Dieu Tout-Puissant et le bien de l'humanité sont la raison et la fin du gouvernement » et que, par conséquent, le gouvernement lui-même est une vénérable ordonnance de Dieu. Un autre des principes de William Penn était que « tout gouvernement est libre pour le peuple qui vit sous lui, quel qu'en soit le cadre, lorsque les lois gouvernent et que le peuple est parti à ses lois, au-delà, c'est la tyrannie, l'oligarchie et la confusion. » Il ne connaissait pas de description plus concise et plus parfaite de la liberté civile et politique que celle contenue dans ces quelques mots. Il composa et publia sa charte pour promouvoir, dit-il, la grande fin du gouvernement, à savoir soutenir le pouvoir dans le respect du peuple et garantir le peuple contre l'abus du pouvoir, afin qu'ils soient libres par leur juste obéissance et que les magistrats soient honorables par leur juste administration, car la liberté sans obéissance est confusion et l'obéissance sans liberté est esclavage. D'après cette charte, la première année, l'Assemblée générale devait être composée de tous les hommes libres de la province. En conséquence, on peut dire que l'Assemblée qui se réunit à Upland le 6 et s'ajourna le 10 décembre 1682 fut la réunion d'une démocratie pure. Ce premier rassemblement aurait été un spectacle solennel et émouvant pour quiconque aurait pu en prévoir toutes les conséquences dans un avenir lointain. Ils se réunirent, pionniers de la wilderness, hommes rudes, graves et sérieux, prêts au labeur, à la privation et au danger, hommes au courage moral plus qu'au seul courage physique, les mains durcies par les coups inlassables de la hache abattant la forêt primitive et bâtissant leur grossière cabane de rondins. Et là, à portée d'hurlements de sauvages errants aux dispositions encore inconnues, ils adoptèrent, dans le bref espace de 3 jours, 61 lois, dont beaucoup, en vérité toutes, furent les pierres de fondation sur lesquelles s'est depuis élevé. C'était une introduction appropriée à ce code simple mais noble, la loi sur la liberté de conscience, que toutes les personnes vivant dans cette province, qui confessent et reconnaissent l'unique Dieu tout-puissant et éternel comme créateur, soutien et gouverneur du monde, et qui se tiennent obligées en conscience de vivre paisiblement et justement en société civile, ne seront en aucune manière inquiétées ni lésées pour leurs croyants ou pratiques religieuses en matière de foi et de culte, et qu'elles ne seront jamais contraintes de fréquenter ou d'entretenir. Considérant la portée et l'esprit de nos premières lois et institutions, le célèbre Montesquieu déclara à William Penn, un véritable Lycurgue, que bien que l'objet de l'un fût de former un état pacifique et celui de l'autre un état guerrier, ils se ressemblaient par l'ascendant qu'ils surent acquérir sur les opinions, les préjugés et les passions du peuple. Penn insuffla son propre esprit dans les lois, et toute l'histoire de notre jurisprudence montre assurément combien nous avons puisé à ses sources originelles. Le caractère du Code est à la hauteur de son introduction. Modéré dans ses dispositions pénales, juste et égal dans ses dispositions civiles, il offre un exemple sans pareil dans l'histoire du monde de fondation d'un grand État posé dans la paix, la justice et l'égalité. Il suffit de rappeler l'abolition de la peine capitale dans tous les cas sauf pour le meurtre volontaire, que toutes les prisons doivent être des maisons de travail, les lois relatives à l'enregistrement des actes et à l'inscription des testaments, à la réglementation des procédures et des plaidoiries, à la mise des terres au rang de biens meubles pour le paiement des dettes, et que les lois devaient non seulement être imprimées pour l'information générale, mais encore enseignées dans les écoles. Avant la dissolution de l'Assemblée, qui eut lieu le 7 du 10e mois, ils adressèrent au gouverneur leurs remerciements reconnaissants. Les Suédois déléguèrent à un homme pour lui assurer qu'il l'aimerait, le servirait et lui obéirait avec tout ce qu'il possédait. Il appréciait beaucoup l'emplacement de sa ville champêtre et verdoyante, ainsi que les plans élaborés par ses agents. Il changea certains des noms qu'ils avaient donnés aux rues. Il remplaça Poole par Walnut et Wynne par Chestnut Street à cause des arbres qui poussaient près de ses voies. L'une des principales artères, il la nomma Ray Street, ce qui devint plus tard Market Street. Il prévit la place ouverte à l'angle de Broad et Market Streets, là où se trouve aujourd'hui l'hôtel de ville, mais il comptait qu'elle s'étendît sur 10 acres. Il laissa un large boulevard le long du fleuve Delaware et traça la ville sur un plan en damier, en y ménageant 4 espaces libres qui reçurent plus tard les noms de Washington, Franklin, Ritenhouse et Logan Square. À peine Penn eut-il esquissé la carte de ce qu'il espérait voir devenir son petit village de Philadelphie, qu'il se mit à planifier l'éducation des habitants qu'il exhortait à le suivre depuis l'Europe. Il avait persuadé William Bradford, imprimeur de Leicester, Angleterre, de faire la traversée avec lui et d'installer une presse d'imprimerie dans la province. En décembre 1683, Enoch Flau ouvrit une école dans une cahute de 2 pièces construite en planches de pin et de cèdre, et 6 ans plus tard une école publique fut fondée, qui devait devenir avec le temps la William Penn Charter School, destinée à perdurer jusqu'à nos jours. Bien que le service postal n'existât en Angleterre que depuis quelques années, Penn le jugeait si précieux qu'il donna l'ordre d'installer un bureau de poste dans sa province, avec une distribution hebdomadaire, et les lettres étaient acheminées au coût très raisonnable de 2 pences de Philadelphie à Chester et de 6 pences de Philadelphie au Maryland. Le premier bâtiment à ossature achevé à Philadelphie fut le « Blanchard », qui faisait à la fois office d'auberge, de bourse d'échange, de marché communal, de bureau de poste et de débarcadère. Il se dressait face au fleuve et était construit de lourdes charpentes de bois et de briques apportées d'Angleterre. Les colons étaient des hommes d'énergie et de ressources, ils bâtirent rapidement des maisons solides, et bientôt les habitations aux toits pointus, balcons et porches devinrent un spectacle courant, tandis qu'un homme entreprenant nommé Carpentier construisit un quai de 300 pieds de long, où un navire de 500 tonneaux pouvait accoster. Penn était à juste titre fier des réalisations de ses colons. Il écrivit à Lord Halifax, « Je dois dire, sans vanité, que j'ai conduit en Amérique la plus grande colonie que jamais aucun homme ait menée sur son seul crédit privé. Astérisque et à Lord Sunderland, avec l'aide de Dieu et de si nobles amis, je montrerai en 7 ans une province égale à celle de sa voisine après 40 ans de plantation. » Après avoir mis les hommes au travail sur sa nouvelle ville, Penn voyagea à travers le West et East Jersey, vit Long Island, et chemin faisant, s'arrêta pour prêcher à tous les Quakers qu'il trouvait dans cette partie de l'Amérique du Nord. On supposa longtemps qu'il conclut à peu près à cette époque son célèbre traité avec les Indiens à Kensington, mais les historiens pensent aujourd'hui qu'il ne fut pas conclu avant l'année suivante. Dès que son nouveau gouvernement fut en ordre, le propriétaire de la province de Pennsylvanie, accompagné de son conseil, se rendit au Maryland pour discuter de la ligne de frontière avec Lord Baltimore. Les deux propriétaires se rencontrèrent à West River, mais ne parvinrent à aucun arrangement satisfaisant. Penn retourna alors dans sa colonie et passa l'hiver dans la petite implantation de Chesté. À ce moment-là, d'autres navires amenaient des Quakers en Pennsylvanie, 23 bâtiments étaient arrivés en peu de temps, et leurs passagers furent très chaleureusement accueillis par les colons déjà installés. Le jeune propriétaire n'avait que 38 ans. Astérisque, c'était un principe Quaker d'éviter les dettes suivant l'écriture, ne devez à personne rien sinon de vous aimer. Et George Fox a rédigé un avertissement très sérieux au sujet des dettes commerciales dans sa lettre de sang envoyée aux Quakers du monde entier. Penn lui-même écrivit contre les dettes. Il semble qu'il ne sacrifia pas ce principe, étant toujours capable d'honorer ses factures et obligations jusqu'à une période très tardive de sa vie, lorsque Penn fut emprisonné pour n'avoir pas payé à son gestionnaire d'affaires sans scrupules une dette, fabrication complète des sommes prétendument dues. Voir les détails plus loin. Nous savons cependant qu'il se plaisait, car il écrit en Angleterre plein d'entrain, au sujet de ses voyages, des merveilles du pays, de son gibier et de ses poissons, de l'abondance des provisions, de l'air pur, des 23 navires arrivés si vite que peu avaient mis plus de 6 semaines, et avec une chance telle que seuls 3 furent touchés par la variole. Il dit « Oh, combien est douce la quiétude de ces contrées, affranchie des sollicitations anxieuses et troublantes, des bousculades et des perplexités de la misérable Europe. La nature simple, pense-t-il, vaut mieux que l'Arville, et il exprime le désir, qu'il eut souvent par la suite, de s'établir avec sa famille dans sa province. Je l'aime tant qu'un domaine abondant, et de nombreuses relations de l'autre côté, n'ont aucun charme capable de m'en détourner, ma famille une fois fixée avec moi, et s'il ne survient rien d'autre, je suis susceptible de devenir un Américain d'adoption. » Dans une autre lettre, nous constatons qu'il engageait de grandes dépenses, dépensant largement pour faire avancer son entreprise. Il fit tout cela pour le bien des fidèles de sa foi, et la province, dit-il, est maintenant entre leurs mains. C'est par mon labeur, ma foi et ma patience que cela est venu. Si les amis d'ici demeurent avec Dieu dans la justice, la miséricorde, l'équité et la crainte du Seigneur, leurs ennemis seront leurs marchepieds, sinon, leurs héritiers et mes héritiers aussi perdront tout, et la désolation s'ensuivra. Au printemps, il fut très occupé à superviser la construction des maisons de Philadelphie, et quitta Chesté pour s'installer dans ce qu'on appelait la Letitia House à Philadelphie. Cette maison avait été bâtie pour lui face au fleuve, au sud de ce qui est aujourd'hui Market Street, sur un terrain correspondant à environ la moitié d'un pâté de maison. La maison était en briques et fut plus tard donnée par Penn à sa fille Letitia. Des navires arrivaient rapidement avec des immigrants. Certains apportaient avec eux les charpentes de maison, prêtes à être montées. Ils vivaient dans des huttes de bardeaux et de mottes de terre pendant qu'ils construisaient leur maison, et certains creusèrent des grottes dans la berge du fleuve, qui était alors assez escarpée. Ce devait être une scène intéressante, avec le jeune propriétaire, élégant et accompli, car il n'avait alors que 38 ans, se déplaçant parmi les gens et suggérant des plans pour leur maison, tandis que tous étaient stimulés par la nouveauté de l'entreprise et la fraîcheur et l'excitation de la wilderness. Il n'y eut ni privation sévère ni pénible danger, ni maladie ni famine, comme on le lit au sujet des premiers établissements de Virginie et du Massachusetts. Les bois tout autour de la ville étaient décrits comme regorgeant de vie animale, non seulement alors, mais encore durant bien des années. Tout était en abondance. Fonder une grande ville relevait vraiment d'une sorte de pique-nique ou de campement. Beaucoup de maisons avaient des caves en pierre et étaient construites de briques et de pierres, car la pierre était abondante et les briques se fabriquaient aisément à partir des couches d'argile sous-jacentes. Cette construction immédiate en briques et en pierre montre la facilité de la vie et la prospérité rapide. De curieuses histoires, transmises par la tradition, racontent les événements agréables vécus par ces gens qui profitaient d'un séjour en plein air, dans des huttes et des grottes au bord du fleuve, tandis qu'ils bâtissaient leur solide maison. On vit une femme assise à l'entrée de sa grotte et laissant un serpent partager son bol de bouillie, tout en lui donnant des petits noms affectueux. Une autre femme, à qui son mari avait dit de préparer le dîner pendant qu'il continuait de travailler à la maison, s'en alla tristement, se demandant ce qu'elle pourrait bien servir. Puis elle se reprocha sa sottise, ne jouissait-elle pas de la pleine liberté religieuse pour laquelle elle était venue? Et lorsqu'elle atteignit leur grotte, elle trouva que son chat avait rapporté un lapin, qu'elle servit à prêter comme un lièvre anglais. Elle s'appelait Maury, et l'on dit que sa famille, jusqu'à une époque récente, conserva une boîte d'argent qu'ils avaient fait fabriquer avec un chat et un lapin gravé dessus. Quelques-uns des Allemands, auxquels Penn s'était intéressé pendant ses voyages dans leur pays, étaient déjà arrivés. Leur chef, Pastorius, homme très érudit à la manière allemande, vivait dans l'une des grottes de la berge du fleuve, et Penn fut très amusé par la devise latine qu'il plaça au-dessus de la porte de sa demeure, « Parva domus et amica boni, procul est profani ». Enfant au foyer, ami des bonnes femmes, que les profanes s'éloignent, en mars, Penn fit réunir de nouveau l'Assemblée, et la Constitution fut encore modifiée. Une loi fut adoptée créant des conciliateurs pour prévenir les procès, et la session de 21 jours fut consacrée à réviser les anciennes lois et à en promulguer de nouvelles. Ce dut être une période très chargée pour Penn, car il se sentait tenu d'user de son influence dans toutes ses démarches. Son affabilité, son équité et sa franchise semblent, dans ses premiers jours de la colonie, avoir gagné l'entière dévotion du peuple. L'Assemblée lui accorda les recettes de tous les impôts futurs sur certaines exportations et importations, ce qu'il refusa généreusement pour le moment. Mais s'il avait su quelles dépenses et quelles pertes l'attendaient, il aurait conservé cette occasion en or d'un revenu assuré. L'Assemblée profita sèchement de sa générosité, abrogea la loi et ne put jamais être convaincue de la rétablir. 20 ans plus tard, il évoqua cette occasion manquée avec le regret le plus poignant. La colonie était à l'aise et prospère, et le système de gouvernement de Penn avait été si bien conçu que les lois étaient faites et appliquées avec très peu de friction. Parfois, Penn lui-même présidait les réunions du conseil provincial, qui siégeait fréquemment comme tribunal. L'un des premiers procès porta sur une affaire de sorcellerie parmi les Suédois, et fut mené si rapidement et avec une telle fermeté que l'ancienne superstition fut empêchée de se répandre parmi la population, comme ce fut le cas au Massachusetts un peu plus tard. Penn donna ses instructions au jury, qui rendit le verdict suivant : la prisonnière était coupable, selon la rumeur commune, d'être une sorcière, mais non coupable selon la manière et la forme telle qu'elle se trouve inculpée. Comme cela revenait à décider que l'accusée n'était coupable d'aucun méfait, malgré sa réputation de pratiquer la sorcellerie, un précédent fut établi, montrant que la Pennsylvanie entendait traiter équitablement toutes sortes d'hommes et de femmes. 1771-72 Peinture de la Pennsylvania Academy of Fine Arts, Philadelphie. Tout le monde connaît le célèbre tableau de Benjamin West représentant Penn concluant un traité avec les Indiens sous le grand orme à Kensington, d'après www.penntmuseum.org. Le mémorable traité de William Penn avec Tamanant et d'autres chefs Delawares du clan de la Tortue, sous le grand orme à Chacamaxon, dans les limites de Philadelphie, est empreint d'un intérêt romantique. Sans armes, vêtu de son austère habit Quaker, il s'adressa aux Amérindiens rassemblés, prononçant les paroles suivantes, qui seront admirées à travers les âges. « Nous nous rencontrons sur la vaste voie de la bonne foi et de la bienveillance. Aucun avantage ne sera pris d'aucun côté, mais tout sera ouverture et amour. Nous sommes comme si le corps d'un homme devait être divisé en deux parties. Nous sommes d'une seule chair et d'un seul sang. La réponse de Tamanant est tout aussi noble. Nous vivrons dans l'amour avec William Penn et ses enfants aussi longtemps que les ruisseaux et les rivières couleront, et tant que dureront le soleil, la lune et les étoiles. Il n'existe aucun document officiel du Grand Traité, ce traité rendu familier à beaucoup par le tableau de Benjamin West et l'allusion de Voltaire à celui-ci, comme le seul traité jamais juré et jamais rompu. Le désaccord entre historiens quant à la date de l'événement ajoute aussi à la confusion sur son authenticité. Certains affirment qu'il eut lieu à la fin de novembre, peu après l'arrivée de Penn dans sa colonie. Sous l'abri de la forêt, pour citer Bancroft, désormais dépouillé par les gelées d'automne, Penn proclama aux hommes de la race algonquine, des deux rives du Delaware, des frontières du Schuylkill et même du Susquehanna. D'autres historiens fixent la date du traité au 23 juin 1683, lorsque Penn acheta deux parcelles de terre à Tamanant et à ses associés. Supposant que la transaction et le « grand traité » eurent lieu au même moment et au même endroit. Certains étudient le tableau de West représentant la scène du traité et remarquent que les arbres sont en pleine feuillaison et ne suggèrent donc pas un jour de fin d'automne ou d'hiver, comme le soutient Bancroft, mais plutôt un jour du mois feuillu de juin. Même si l'achat des deux parcelles de terre à Tamanant et à d'autres, le 23 juin 1683 a pu servir d'impulsion au grand traité, il s'agissait très certainement d'un traité d'une grande importance et digne d'occuper une place éminente dans l'histoire indienne de la Pennsylvanie et de la nation. Jean XV écrit dans son « Pennsylvania, colonial and federal », dans les années qui suivirent 1683, jusque bien avant dans le siècle suivant, les Indiens conservèrent la tradition d'un accord de paix conclu avec Penn, et on s'en souvint maintes fois lors des réunions tenues avec lui et ses successeurs. certaines de ces allusions sont très précises. En 1715, par exemple, une importante délégation de chefs Lenape vint à Philadelphie visiter le gouverneur. Sassonnant, appelé plus tard Lamepise, et pendant de nombreuses années chef principal de son peuple, en était le chef, et Opessa, un chef Shawnee, l'accompagnait. Il y eut une « grande cérémonie », dit le registre du conseil, autour de l'ouverture du calumet. On secoua des hochets et l'on chanta des chants. Puis Sassonnant parla, offrant le calumet au gouverneur Gookin, qui dans son discours évoqua cette paix ferme qui avait été conclue entre William Penn, fondateur et gouverneur en chef de ce pays, lors de sa première venue, à quoi Sassonnant répondit qu'il était venu renouveler l'ancien lien d'amitié, que William Penn, lors de sa première venue, avait tracé une route claire et ouverte jusqu'aux Indiens, et qu'il désirait qu'elle demeurât ouverte et que tous les obstacles fussent levés, etc. Les Indiens conservèrent toujours une tradition distincte d'un traité quelconque avec Penn, ou plutôt de certaines promesses qu'il avait faites et qu'il tint toujours, et c'est là le point essentiel. On suppose que Penn fait référence à ses promesses dans sa lettre à la Free Society of Trade, datée du 6 août de cette année-là, 1683, environ 2 mois après l'achat de terres du 23 juin. Lorsque l'achat fut conclu, de grandes promesses furent échangées entre nous, de bonté et de bon voisinage, et que les Indiens et les Anglais devaient vivre dans l'amour tant que le soleil donnerait sa lumière. Cela fait, un autre prononça un discours aux Indiens, au nom de tous les Sachamacans ou rois, d'abord pour leur dire ce qui avait été fait, ensuite pour leur enjoindre et leur commander d'aimer les chrétiens et en particulier de vivre en paix avec moi et avec le peuple sous mon gouvernement. Que beaucoup de gouverneurs étaient venus sur le fleuve, mais qu'aucun gouverneur n'était venu lui-même vivre et demeurer ici auparavant, et qu'ayant maintenant un tel homme, qui les avait bien traités, ils ne devaient jamais lui faire, à lui ni aux siens, aucun tort. À chaque phrase, ils poussèrent des cris et dirent « Amen » à leur manière. Nous avons les procès-verbaux de discours prononcés par les Indiens lors de traités bien des années plus tard, où ils font référence à ces promesses faites autrefois par Penn, et leur description de ces promesses ressemble étroitement à ce que Penn décrit dans sa lettre à la Society of Trade. Les Indiens disaient qu'ils se rassemblaient souvent dans les bois et étendaient une couverture sur laquelle ils déposaient toutes les paroles de Penn afin de les parcourir et de rafraîchir leur mémoire. Par là, ils entendaient qu'ils déposaient sur la couverture les ceintures de wampum, chacune représentant une clause des promesses ou du traité. Chaque ceinture avait été, à l'origine, remise à un Indien, avec la clause dont il devait se souvenir, et c'est ainsi qu'il conservait ce que les nations civilisées conservent dans des documents. Le fond des promesses était simplement que les Indiens devaient être traités équitablement et non trompés. Il n'y avait rien d'extraordinaire à cela. De tels traités avaient été conclus auparavant avec des Indiens et avec des sauvages de toutes sortes depuis l'aube de l'histoire. Près de 30 ans avant l'arrivée de Penn, lorsque les Suédois contrôlaient le Delaware, leur gouverneur Rising avait conclu un traité avec les Indiens comportant des promesses similaires. Peu après, les Quakers de Burlington, dans le New Jersey, conclurent le même type de traité d'amitié. Le titre des Indiens et leur droit à compensation avaient été reconnus à maintes reprises depuis l'époque du premier établissement des Amis dans le New Jersey, ce n'était donc pas nouveau. Et ce n'était pas non plus, comme beaucoup le supposent, l'intention de William Penn, au moment du célèbre traité, de les payer intégralement sur le champ, là et alors pour leurs terres. Au contraire, il y eut divers achats distincts effectués à des moments différents et auprès de tribus différentes occupant des localités différentes. Il ne semble pas qu'il y ait eu un quelconque achat en lien avec le grand traité. Des présents furent échangés et des discours prononcés des deux côtés, contenant des promesses clairement définies de justice et de paix, à l'exclusion de toute violence. En cas de différend surgissant à tout moment, ceci devait être réglé par arbitrage, les arbitres, au nombre de 12, devant être équitablement choisis par les parties concernées, moitié anglais, moitié indien. Bien que les Indiens aient répondu à William Penn par des discours majestueux et éloquents, on semble n'avoir conservé que peu de choses de leurs propos, sinon leur engagement de vivre dans l'amour avec Ona Penn et ses enfants aussi longtemps que dureront le soleil et la lune. Lorsque le récit de ce traité parvint en Europe, nombre de ces politiciens attendirent, avec des sourires narquois, le dénouement qu'ils s'imaginaient devoir suivre. Aller parmi ces cruels sauvages indiens sans armes et s'engager à ne jamais user de violence envers eux, quelle folie, quelle démence. Mais ils attendirent et observèrent longtemps, et pourtant aucune violence ni effusion de sang ne s'ensuivit. Tandis que les colons des alentours étaient constamment en guerre avec les Indiens, et que le couteau scalpé et le tomahawk apportaient la mort et la terreur à bien des foyers, les Quakers de Pennsylvanie et toutes leurs possessions demeurèrent intactes sur « cette paisible Éden reposait quand le cri de guerre soulevait le pays », alors l'Indien détourna de leur maison sa main sanglante, il se souvint du traité avec les Phil Donna et le garda inviolé. De leur côté, les Amis de Pennsylvanie agirent avec vérité et honnêteté envers les Poroges, et le peuple indien, même lorsqu'il était en guerre avec d'autres colonies anglaises, et même après la mort des parties originelles au traité, continua de considérer comme sacrés les vies et les biens des enfants d'Ona. Ce sont les événements ultérieurs, et non le traité lui-même, qui le rendirent célèbre. Les Indiens avaient souvent entendu auparavant et entendaient souvent ensuite de belles promesses, mais peintent les siennes, non seulement à ses yeux ou à ceux de ses partisans, mais aux yeux des Indiens. À mesure que passaient 10, 15, 20 et 30 ans, et que les Indiens constataient que chaque parole du traité était tenue par Mignon, comme la tribu d'Eloé l'appelait, ou Ona, comme l'appelaient les Iroquois, la renommée de cet unique homme blanc et chrétien capable de garder sa parole avec le sauvage se répandit au loin, et le sauvage la fit traverser l'Atlantique. En France et sur le continent européen, les grands hommes et les écrivains s'en emparèrent comme de l'événement le plus remarquable de l'époque. Pour ces hommes, élevés dans le christianisme latin et accoutumés aux atrocités et aux horreurs infligées par Corte et Pizarro aux indigènes d'Amérique du Sud, l'idée d'un chrétien tenant sa promesse intacte pendant 40 ans envers des Indiens païens relevait de l'idéalisme réalisé. C'était comme un rafraîchissement dans un grand désert épuisant. Qui était cet homme, et quel étrange genre de chrétien était-ce donc, pour tenir sa parole envers des païens, pour avoir fait ce qui n'avait jamais été fait auparavant, et ce qu'on supposait ne jamais devoir être fait. Voltaire en fut ravi dès lors, il aimait les Quakers et envisagea même d'aller vivre en Pennsylvanie parmi eux. Bientôt, il écrivit à propos du grand traité cette phrase immortelle, « Ce fut le seul traité entre ces peuples et les chrétiens qui ne fut pas ratifié par un serment et qui ne fut jamais rompu. » Reynaldi, ici, l'esprit se repose avec plaisir sur l'histoire moderne et éprouve une sorte de compensation pour le dégoût, la mélancolie et l'horreur qu'inspire l'ensemble de celle-ci, et surtout celle de l'établissement européen en Amérique. Aucune autre partie de la carrière de Paine ne lui valut une renommée aussi vaste, aussi bien méritée que celle-ci. Il se tenait seul et sans rival et pour autant que les États-Unis soient concernés, il est resté seul depuis lors. Aucun d'entre nous, certainement pas notre gouvernement à Washington, n'a jamais gardé sa parole envers les Indiens sur une durée de 40 ans. Dans le cas de Paine, la période fut même plus longue encore, tant par les bons résultats qui suivirent sa conduite. La Pennsylvanie fut en paix avec les Indiens non seulement durant sa vie, mais longtemps après sa mort, en fait pendant près de 75 ans, ou jusqu'aux guerres franco-indiennes, qui commencèrent en 1755. Cela donna à la province un avantage énorme sur les autres colonies, continuellement harcelés et freinés dans leur croissance par les hostilités indiennes, de sorte que la Pennsylvanie, fondée bien après la plupart d'entre elles, les rattrapa et dépassa presque toutes en population et en prospérité matérielle. Lorsque la guerre de France commença, en 1755, la population des frontières de la Pennsylvanie était presque sans armes et si peu habituée à la guerre que les premiers envahisseurs balayèrent tout devant eux. Les premiers colons de Pennsylvanie, soit parce qu'ils étaient Quakers, soit sous l'influence de Paine, semblent avoir entretenu les relations les plus amicales avec les Indiens. Les lettres de l'époque nous apprennent qu'ils furent accueillis aussi bien par les Suédois que par les Indiens avec une très cordiale bienvenue. Des Indiens rencontrant des enfants dans les bois les reconduisaient chez eux afin qu'ils ne se perdent pas. Et leurs parents, à cette époque, se rendant à la réunion annuelle et laissant une jeune famille à la maison, les Indiens venaient chaque jour voir que rien n'allait de travers chez eux. Richard Townsend, l'un des premiers colons, attribue à peine cette douceur des Indiens. Comme notre digne propriétaire traita les Indiens avec une humanité extraordinaire, ils devinrent très courtoises et affectueuses envers nous et apportèrent abondance de venaison. Comme dans d'autres pays, les Indiens furent exaspérés par les mauvais traitements, qui ont été la cause de beaucoup de sang versé, le traitement contraire ici a produit leur amour et leur affection. Proud's History of Pennsylvania, vol. IP 229. Une lettre écrite par Paine à l'été de cette année-là, 1683, après qu'il eut achevé les achats de terres aux Indiens, rapporte que 50 voiles étaient arrivées au cours de l'année écoulée, qu'environ 80 maisons avaient été construites à Philadelphie et qu'environ 300 fermes avaient été tracées autour de la ville. On suppose qu'environ 3000 immigrants étaient arrivés. Il n'existe aucun relevé exact de son premier traité avec les Indiens, mais le traité fut conclu à Chickamauxon, aujourd'hui Kensington, un quartier de Philadelphie. À Chickamauxon, près de la rive, se trouvait un très grand orme, et sous ses branches largement étendues, William Paine et ses amis se réunirent avec les Indiens. Il s'adressa à eux par l'intermédiaire d'un interprète, disant que le grand esprit qu'il avait créé, eux et lui, qui gouvernait le ciel et la terre et connaissait les pensées les plus intimes de l'homme, savait que lui et ses amis avaient le désir sincère de vivre avec eux en paix et en amitié, et de les servir de toutes leurs forces. Ce n'était pas leur coutume d'employer des armes hostiles contre leurs semblables, c'est pourquoi ils étaient venus sans armes. Leur but n'était pas de faire du mal et de provoquer ainsi le grand esprit, mais de faire le bien. Ils se rencontrèrent alors sur la large voie de la bonne foi et de la bienveillance, de sorte qu'aucun avantage ne devait être pris d'un côté comme de l'autre, mais que tout devait être franchise, fraternité et amour. Après ces paroles et d'autres, il déroula le parchemin et par le même interprète, leur transmit les termes du pacte alors conclu pour leur union éternelle. Entre autres choses, ils ne devaient pas être inquiétés dans leurs occupations légitimes, même sur le territoire qu'ils avaient aliéné, car il devait être commun à eux et aux Anglais. Il devait y avoir la même liberté d'y faire tout ce qui concernait l'amélioration de leurs terres et la subsistance de leur famille que les Anglais. Si des différences survenaient entre les deux parties, ils devraient être réglés par 12 personnes, dont la moitié serait anglaise et l'autre moitié indienne. Il leur fit ensuite de nombreux présents tirés des marchandises qui avaient été étalées devant eux. Cela fait, il posa le rouleau de parchemin à terre, observant de nouveau que la terre devait être commune aux deux peuples. Il ajouta ensuite qu'il ne comparerait pas l'amitié entre lui et eux à une chaîne, car la pluie pourrait parfois la rouiller, ou un arbre pourrait tomber et la briser, mais qu'il les considérerait comme étant de la même chair et du même sang que les chrétiens, et comme si le corps d'un homme devait être divisé en deux parties. Il reprit alors le parchemin, le présenta aux sachems et les pria de le conserver soigneusement pendant 3 générations, afin que leurs enfants puissent savoir ce qui s'était passé entre eux, comme s'il était resté lui-même parmi eux pour le répéter. Que William Perm ait dû faire et dire bien davantage en cette intéressante occasion que ce qui vient d'être rapporté, il n'y a aucun doute. Il est également regrettable que les discours des Indiens en ce jour mémorable ne nous soient pas parvenus. On sait seulement qu'ils s'engagèrent solennellement, selon la coutume de leur pays, à vivre dans l'amour avec William Penn et ses enfants aussi longtemps que le soleil et la lune dureraient. C'est à cette époque que William Penn entra pour la première fois personnellement dans cette amitié avec eux, laquelle se maintint ensuite toujours entre eux et qui, pendant plus de 70 ans, ne fut jamais interrompue, ou du moins aussi longtemps que les amis conservèrent le pouvoir au gouvernement. Sa conduite envers ce peuple était si séduisante, sa justice si éclatante, et les conseils qu'il leur donnait étaient si manifestement à leur avantage qu'il leur devint très cher. Les Iroquois l'appelèrent Tona, et les Delwesmicon, deux mots signifiant une plume ou un stylet. Et partout où l'on trouve des restes des tribus indiennes qui le connurent alors, son nom est tenu en honneur, et même l'appartenance à la société religieuse à laquelle il est associé dans leurs souvenirs est un passeport pour leur confiance, écrit en 1883. Ce traité n'était qu'un simple accord sur la manière d'acheter la terre et sur la façon dont elle devait être arpentée. Plus tard, des actes furent rédigés pour le transfert effectif des terres, et les parcelles à transférer furent arpentées selon l'ancienne méthode consistant à marcher contre la montre. Ainsi, il fut convenu que ce qu'on appelait le « tract de Neshaminy » s'étendrait au-delà de l'embouchure du ruisseau Neshaminy, aussi loin qu'un homme pourrait marcher et revenir en 3 jours. La façon dont cela fut fait a été décrite par John Watson. « Le gouverneur Penn, dit-il, avec plusieurs amis et un groupe d'Indiens, commença au mois de novembre à l'embouchure du Neshaminy et remonta le Delaware à pied. En 1 jour et demi, ils arrivèrent à un point distant d'environ 30 milles, à l'embouchure d'un ruisseau qu'ils appelèrent Bakers, du nom de l'homme qu'il atteignit le premier. Là, ils marquèrent un épicéa, et le gouverneur Penn décida que c'était autant de terre qu'il en faudrait immédiatement pour la colonisation, et il n'alla pas plus loin. Ils marchaient tranquillement, les Indiens s'asseyant parfois pour fumer leurs pipes et les hommes blancs pour manger du biscuit et du fromage. Plus tard, une ligne fut tracée et marquée depuis l'épicéa jusqu'au Neshaminy. Le reste fut laissé pour être parcouru lorsqu'on en aurait besoin pour la colonisation. Cette méthode inhabituelle de mesurer la terre semble avoir été assez équitable, du moins tant que William Penn exerça son autorité sur les colons blancs. Les Indiens avaient déjà appris qu'ils pouvaient lui faire confiance et ne trouvèrent aucune raison de pousser le cri de guerre contre les « enfants de mignon, frères aînés », comme on appelait les partisans de William Penn. Il est agréable de se rappeler que les colons de l'époque de William Penn payaient les Indiens lorsqu'ils achetaient des terres. Il existe un relevé de la vente de ce qu'on appelait le « tract de Salem », une portion de terre ayant une façade de 24 milles sur le Delaware et s'étendant en profondeur assez loin pour comprendre plus de 800 milles carrés. Pour cela, raconte-t-on, les Indiens reçurent en paiement l'étrange assortiment d'articles suivants. 30 manteaux, 20 fusils, 30 chaudrons, 1 grand chaudron, 30 paires de bas, 20 brasses de duffel, 30 jupons, 30 huées, 30 barres de plomb, 15 petits barils de poudre, 60 couteaux, 30 haches indiennes, 60 peignes, 60 paires de pinces à tabac, 60 paires de ciseaux, 60 miroirs en étain, 120 lames d'haleine, 120 hameçons de poignées de peinture rouge, 120. On dépensa beaucoup d'éloquence pour la conclusion de ces traités. Penn écrivit au sujet de l'un d'eux, « Quand l'achat fut convenu, de grandes promesses furent échangées entre nous, de bonté et de bon voisinage, et que les Indiens et les Anglais devaient vivre dans l'amour aussi longtemps que le soleil donnerait de la lumière. » D'une manière générale, les traités de William Penn promettaient simplement que les Indiens seraient traités équitablement et qu'ils obtiendraient réparation de la part du gouvernement de la colonie si un colon les trompait. Penn apprit aussi suffisamment les langues des tribus voisines pour conduire les négociations de son gouvernement dans leur langue. Il suivit la direction de George Fox en présentant aussi la foi quake aux Indiens, les tournant vers la lumière intérieure en chacun d'eux pour les instruire et les purifier. Chapitre X. Ce que Penn trouva en Amérique pendant son séjour en Pennsylvanie, William Penn écrivit souvent à sa famille et à ses amis en Angleterre. Ces lettres nous donnent un tableau vivant du nouveau monde américain, car elles furent écrites par un observateur très perspicace et un homme exceptionnellement instruit. Elles nous montrent le pays vierge d'où devaient naître les foyers d'une nouvelle nation. « Je trouve le pays salubre, écrivit-il, la terre, l'air et l'eau sont bons, diverses bonnes sortes de bois et de fruits qui poussent à l'état sauvage, dont les prunes, les pêches et les raisins sont trois, aussi le cèdre, le châtaignier, le noyer noir et le peuplier, avec cinq sortes de chênes, noir et blanc d'Espagne, rouge et chêne des marais, le plus durable de tous, dont la feuille ressemble au saule anglais. Nous avons tracé une ville longue d'un mille et profonde de 2 milles. De chaque côté de la ville coule une rivière navigable, la plus étroite au moins, aussi large que la Tamise à Woolwich, l'autre ayant environ 1 mille de largeur. Je crois que nous avons près de 80 maisons bâties et environ 300 fermiers établis autour de la ville. Je l'imagine déjà plus agréable que le Weald de Kent, notre clairière étant plus nette et la campagne pas beaucoup plus fermée. On pourrait mener un coche sur 20 milles en ligne droite. Nous avons eu 50 voiles de navires et de petites embarcations, depuis l'été dernier, dans notre rivière, ce qui montre un bon commencement. Penn était très fier des richesses naturelles de son nouveau pays. Il écrivit « Voici un noyer carrier très grand et plus résistant que notre frêne, donnant le plus beau feu blanc et flamboyant que j'ai jamais vu. J'ai eu du meilleur chevreuil, plus gros, plus tendre et aussi gras qu'en Angleterre. Des dindons sauvages, j'en ai eu de 40 et 50 livres de poids. Le poisson abonde ici, et pourtant j'entends parler d'huîtres monstrueuses par leur grosseur, bien qu'il y en ait une sorte plus petite. Le climat l'intéressait au plus haut point. Pour les saisons de l'année, dit-il, ayant, par la bonté de Dieu, vécu maintenant le plus froid et le plus chaud que le plus ancien habitant de la province puisse se rappeler, je puis dire quelque chose qu'un Anglais comprendra. D'abord l'automne, car c'est alors que je suis arrivé. Je l'ai trouvé, du 24 octobre au début de décembre, comme nous l'avons d'ordinaire en Angleterre en septembre, ou plutôt comme un doux printemps anglais. De décembre au début du mois appelé mars, nous avons eu un temps vif et givré, non pas un temps mauvais, épais, noir comme celui que nos vents de nord-est apportent en Angleterre, mais un ciel aussi clair qu'en été, et l'air sec, froid, pénétrant et mordant. Pourtant je ne me souviens pas avoir porté plus de vêtements qu'en Angleterre. La raison de ce froid est attribuée au Grand Lac, alimenté par les sources du Canada. L'hiver précédent avait été si doux, presque pas de glace du tout, tandis que celui-ci pendant quelques jours a gelé notre grand fleuve, le Delaware. De ce mois jusqu'au mois appelé juin, nous avons joui d'un doux printemps, pas de bourrasque, mais de faibles averses et un beau ciel. Pourtant, j'observe ceci, les vents ici, comme là-bas, sont plus inconstants au printemps et en automne, à ce tournant de la nature, qu'en été ou en hiver. De là jusqu'à ce mois présent, août qui termine l'été à proprement parler, nous avons eu des chaleurs extraordinaires, toutefois atténuées parfois par des brises fraîches. Penn trouva les Indiens encore non corrompus par le commerce avec les colons, et son opinion d'eux doit compter parmi les meilleurs jamais donnés. Il écrivit « Ils sont généralement grands, droits, bien faits et d'une proportion singulière, ils marchent d'un pas ferme et agile, et la plupart avancent le menton haut, de teint noir mais par dessin, comme les bohémiens en Angleterre. Ils s'enduisent de graisse d'ours clarifiée, et n'employant aucune protection contre le soleil et les intempéries, leur peau doit nécessairement être basanée. Leur œil est petit et noir, non sans rappeler celui d'un juif au regard direct. La lèvre épaisse et le nez aplati, si fréquents chez les Indiens de l'été les noirs, ne leur sont pas communs, car j'ai vu parmi eux des deux sexes des visages aussi agréables, d'allure européenne, que de votre côté de la mer, et à dire vrai, un teint italien n'a guère plus de blanc, et les nez de plusieurs d'entre eux ont autant de romains. Leur langue est élevée, mais étroite cependant, comme l'hébreu quant au sens, elle est pleine. Comme la sténographie en écriture, un mot tient lieu de trois, et le reste est fourni par l'intelligence de l'auditeur, imparfaite dans ses temps, pauvre en mode, participe, adverbe, conjonction, interjection. Je me suis appliqué à la comprendre afin de ne pas avoir besoin d'interprète en aucune occasion, et je dois dire que je ne connais pas de langue parlée en Europe qui ait des mots d'une douceur ou d'une grandeur, dans l'accent et l'emphase supérieurs aux leurs, par exemple octococon, rancoca, oricton, chac, marian, pocosian, qui sont tous des noms de lieux, et portent en eux de la grandeur. De leurs coutumes et manières, il y a beaucoup à dire. Je commencerai par les enfants. Dès qu'ils sont nés, ils les lavent dans l'eau, et lorsqu'ils sont très jeunes, et de préférence par temps froid, ils les plongent dans les rivières pour les endurcir et les rendre hardis. Après les avoir enveloppés d'un morceau d'étoffe, ils les posent sur une planche mince et droite, un peu plus grande que l'enfant en longueur et en largeur, et ils l'y emmaillotent solidement pour le rendre droit. C'est pourquoi tous les Indiens ont la tête aplatie à l'arrière de la tête, et ils les portent ainsi sur leur dos. Les enfants marchent très tôt, à 9 mois communément. Ils ne portent qu'un petit pagne autour de la taille jusqu'à ce qu'ils soient grands. Les garçons vont à la pêche jusqu'à ce qu'ils soient mûrs pour les bois, ce qui est vers 15 ans. Alors ils chassent, et après avoir donné quelques preuves de leur virilité par un bon rapport de peau, ils peuvent se marier, sinon, il est honteux de songer à une femme. Les filles restent avec leur mère et aident à biner la terre, planter le maïs et porter des charges, et elles font bien de les y accoutumer des jeunes, car elles devront le faire lorsqu'elles seront vieilles, car les épouses sont les véritables servantes des maris, autrement, les hommes leur sont très affectueux. Et leurs maisons sont des nattes ou des écorces d'arbres, posées sur des perches à la manière d'une grange anglaise, mais hors de prise des vents, car elles sont à peine plus hautes qu'un homme. Ils couchent sur des roseaux ou de l'herbe. En voyage, ils logent dans les bois autour d'un grand feu, avec le manteau de duffel, un gros drap de laine, qu'ils portent le jour, enroulé autour d'eux, et quelques branches plantées autour d'eux. Leur nourriture est le maïs ou blé d'Inde, préparé de diverses manières, parfois rôti dans la cendre, parfois pilé et bouilli avec de l'eau, ce qu'ils appellent romani. Ils font aussi des galettes qui ne sont pas désagréables à manger. Ils ont également plusieurs sortes de haricots et de pois qui sont une bonne nourriture, et les bois et les rivières sont leur garde-manger. Mais, pour la libéralité, ils excellent. Rien n'est trop bon pour leur ami. Donnez-leur un beau fusil, un manteau, ou autre chose. Il peut passer par 20 mains avant de s'arrêter, le cœur léger, des affections fortes, mais vite consumées. Les créatures les plus joyeuses qui soient, ils festoient et dansent sans cesse, ils n'ont jamais beaucoup, ni ne manquent beaucoup. La richesse circule comme le sang. Toutes les parties en reçoivent leur part, et bien que nul ne doive manquer de ce qu'un autre possède, ils sont pourtant d'exacts observateurs de la propriété. Certains rois m'ont vendu, d'autres m'ont donné, plusieurs parcelles de terre. Les dons que je leur fis en paiement ne furent pas thésaurisés par les propriétaires particuliers, mais les rois voisins et leurs clans, étant présents lorsque les biens furent sortis, les parties principalement concernées consultèrent sur ce qu'il fallait donner, et à qui. À chaque roi alors, par les mains d'une personne désignée pour ce travail, une part est envoyée ainsi triée et pliée, et avec une gravité admirable. Puis ce roi la subdivisait de même parmi ses dépendants, ne se laissant guère une part égale à celle de l'un de ses sujets. Et qu'il s'agisse de fêtes ou de leurs repas ordinaires, les rois distribuent et se servent eux-mêmes en dernier. Ils se soucient de peu parce qu'ils ont besoin de peu, et la raison en est qu'un peu leur suffit. En cela, ils se vengent assez de nous. S'ils ignorent nos plaisirs, ils sont aussi exempts de nos peines. Ils ne sont pas tourmentés par les connaissements et l'échange, ni empêtrés dans des procès de la chancellerie et des comptes de l'échiquier. Nous suons et peinons pour vivre. Leur plaisir les nourrit, j'entends par là leur chasse, leur pêche et leur chasse aux oiseaux, et cette table est dressée partout. Outre les ressemblances linguistiques et physiques des Indiens avec la race juive mentionnée ci-dessus, Penn, pour plusieurs autres raisons, croyait que les Indiens étaient l'une des 10 tribus perdues d'Israël. Il connaissait l'hébreu et apprit les langues des Indiens, il parle donc avec autorité des similitudes de langue. Il écrit, quant à leur origine, « Je suis prêt à les croire de la race juive, je veux dire de la souche des 10 tribus », et cela pour les raisons suivantes. Premièrement, ils devaient aller vers un pays ni planté ni connu, ce qui assurément était le cas de l'Asie et de l'Afrique, sinon de l'Europe. Et celui qui entend exercer sur eux cet extraordinaire jugement pouvait rendre le passage moins pénible pour eux, puisqu'il n'est pas impossible en soi, depuis les parties les plus orientales de l'Asie jusqu'aux plus occidentales de l'Amérique. Ensuite, je leur trouve une physionomie semblable, et leurs enfants une ressemblance si vive, qu'un homme se croirait à Duke's Place ou Berry Street, à Londres, quartier juif quand il les voit. Mais ce n'est pas tout, ils s'accordent dans des rites, ils comptent par lune, ils offrent leurs prémices, ils ont une sorte de fête des tabernacles, on dit qu'ils posent leur autel sur 12 pierres, leur deuil dure 1 an, avec beaucoup d'autres choses qui ne me viennent pas à l'esprit à présent. Il aurait été heureux pour les colons des autres colonies qu'ils eussent adopté la même vue amicale des Indiens que Penn, et que, trouvant les indigènes d'une race différente de la leur, ils eussent tenu compte de ces différences. De même que Penn était en bons termes avec les Indiens, il l'était aussi avec les hommes d'autres races qui s'étaient établis près de sa province. Il aimait les Hollandais et les Suédois autant que les Anglais. Il écrivit au sujet de ceux qui s'étaient installés sur son territoire. Les premiers planteurs dans ces régions furent les Hollandais, et peu après eux les Suédois et les Finlandais. Les Hollandais s'appliquèrent au commerce, les Suédois et les Finlandais à l'agriculture. Il y eut quelques différences entre eux pendant quelques années, les Hollandais les considérant comme des intrus sur leur achat et leur possession, ce qui prit finalement fin avec la reddition faite par John Rising, gouverneur suédois, à Pieter Stuyvesant, gouverneur pour les États de Hollande, en l'année 1655. Les Hollandais habitent surtout ces parties de la province qui se trouvent sur la baie ou près d'elle, les Suédois les « fraîches » de la rivière Delaware. Les « fraîches » du Delaware étaient les prairies basses le long du fleuve. Les Suédois bâtirent leurs maisons sur les parties hautes et firent paître leur bétail dans les terres basses. Leur intérêt se concentrait sur le fleuve, qui leur fournissait une réserve apparemment inépuisable de poissons et de gibier, et sur l'herbe riche des prairies riveraines, où il n'était pas nécessaire d'abattre des arbres pour créer des pâturages. Il n'est pas besoin d'en donner une description, eux qui sont mieux connus là-bas qu'ici, mais ce sont des gens simples, robustes, industrieux, qui n'ont pourtant pas fait de grands progrès dans la culture ou la propagation des arbres fruitiers, comme s'ils désiraient plutôt avoir assez que l'abondance ou le commerce. Ils m'ont accueilli avec bienveillance, tout comme les Anglais, qui étaient peu nombreux avant l'arrivée parmi eux des personnes liées à moi. Je dois louer leur respect de l'autorité et leur bonté envers les Anglais. Ils ne dégénèrent pas de l'ancienne amitié entre les deux royaumes. De même qu'ils sont des gens bien faits et robustes de corps, ils ont aussi de beaux enfants, et presque chaque maison en est pleine, rare d'en trouver un sans trois ou quatre garçons et autant de filles, certains six, sept et huit fils. Et je dois leur rendre cette justice, je vois peu de jeunes hommes plus sobres et plus travailleurs. C'est à l'été 1683, lorsque Penn avait écrit chez lui que 50 navires étaient arrivés durant l'année écoulée, qu'environ 80 maisons avaient été construites à Philadelphie et qu'environ 300 fermes étaient en culture dans le voisinage immédiat, qu'on estime qu'environ 3000 colons étaient maintenant arrivés. Penn lui-même fit une longue chevauchée à travers le pays, sans armes, rencontrant de nombreux Indiens, vivant dans leurs wigwams, apprenant leur langue et gagnant continuellement leur bonne volonté et leur amitié. Après ce voyage, il écrivit une longue lettre à la Free Society of Trade, dans laquelle il décrivit le pays en détail et donna des récits remarquablement exacts des arbres et des fleurs, du sol et du climat de sa grande province. Il manifeste une affection pour la province, ce qui est l'un des nombreux faits qui nous convainc que cela aurait été bien mieux s'il avait toujours vécu dans la colonie et l'avait gouvernée en personne. Elle aurait été une meilleure communauté politique, plus proche de ses idéaux, et son gouvernement personnel aurait constitué un chapitre encore plus intéressant de l'histoire humaine. Ses descriptions du climat, du sol, des arbres et des diverses conditions étonnent presque le lecteur moderne par leur exactitude absolue. Il était manifestement un grand amoureux de la nature. On aurait déjà pu l'inférer de nombre de ses maximes et du fait qu'il vivait beaucoup à la campagne en Angleterre. Mais cette lettre à la Society of Trade montre un amour très ardent et une grande connaissance des choses naturelles, qu'on n'aurait pas attendu d'un homme qui avait consacré tant de temps à la théologie, aux langues et aux biographies des Grecs, des Romains et des Pères de l'Église. Il décrit avec un grand souci du détail les arbres et les plantes que nous trouvons aujourd'hui dans les forêts. Nous apprenons de lui que le climat n'a pas changé, ni en hiver ni en été. Il nous dit ce que nous apprenons aussi d'autres sources, et ce qui le surprit beaucoup, que les bois étaient alors tout à fait ouverts et dépourvus de sous-bois. Dans une autre lettre, il dit qu'un coche pourrait y être conduit sur 20 milles autour de Philadelphie, et, dans une lettre à Lord Sunderland, il parle de nombreux espaces dégagés qui ont été d'anciens champs indiens. Non sans une certaine fierté, il dit à la Society of Trade que toute la marine royale pourrait être mise à l'abri dans l'un des grands ruisseaux qui se jetaient dans son puissant Delaware. Il consacre beaucoup de place aux Indiens et à leurs coutumes qu'il avait étudiées minutieusement. Il ne causerait jamais de troubles, c'était la chose la plus facile du monde que de les gouverner, il suffisait d'être juste. Il nous parle de l'élan et de tous les animaux des bois, des dindons sauvages, des faisans, des pigeons, des cygnes, des bernaches, des canards, des bécassines et des courlis en quantité immense, des grandes huîtres dans la baie, et ils énumèrent les alos et tous les poissons que nous connaissons depuis longtemps dans le fleuve. Quand il commet sa seule erreur, elle n'est pas de lui, mais tient au fait qu'il cite le rapport d'autrui, comme lorsqu'il écrit « Certains disent qu'il y a du saumon au-dessus des chutes, aujourd'hui Trenton ». Il était résolu à jouir pleinement de la nature sauvage qu'il prenait tant de plaisir à décrire, et il se fit aménager une résidence de campagne, qu'il appela Pensbury, sur le fleuve, à environ 20 milles au-dessus de Philadelphie, près de l'endroit où se trouve aujourd'hui Bristol. Mais comme elle était à peine achevée à temps pour qu'il y vive durant cette visite, peu après avoir écrit la lettre à la Society of Trades, il dut retourner en Angleterre. La raison la plus pressante de son départ semble avoir été la controverse avec Lord Baltimore au sujet de la frontière du Maryland. Il n'était pas parvenu à s'entendre sur un compromis, et la question devait être plaidée devant le Committee of Trade and Plantation du Conseil privé. Lord Baltimore était déjà parti, dissimulant son départ à Penn afin de le devancer et de faire valoir ses intérêts avant son arrivée. Penn avait aussi une raison de rentrer, le désir de revoir sa famille. Il se peut aussi qu'il ait été influencé par l'idée qu'il devait revenir à son ancienne vie de protection des Quakers contre la persécution en Angleterre. Il reçut de l'un de ses vieux amis, William Crisp, une lettre gignarde, du genre que des gens trop vertueux écrivent parfois, lui disant d'une manière indirecte qu'il négligeait l'intérêt de la vérité et le témoignage de Dieu pour gouverner une colonie, et laissant même entendre qu'il cherchait ses propres intérêts égoïstes. Mais Penn avait, je crois, trop de bon sens pour se laisser conduire par tout ce que cette voix dévote pouvait lui dire. Quoi qu'il en soit, il devait rentrer pour le différend de frontières et abandonner les plaisirs sains et les intérêts de sa province, qui auraient été meilleurs et l'étaient toujours davantage du fait de sa présence immédiate. Il mit donc les voiles pour rentrer, le 16 août 1684, sur un petit navire d'un type qu'on appelait alors un ketch. Il n'était cependant pas si lent, compte tenu de sa taille et de l'époque, car il fit la traversée en 7 semaines. Chapitre XI des jours difficiles en Angleterre. À son arrivée en Angleterre, Penn se trouva dans une situation singulière. Il était un grand homme, le gouverneur d'une vaste colonie réputée extraordinairement riche, et en même temps, il était l'un des chefs d'une secte qui, une fois de plus, était mal vu et détesté par le roi comme par la cour. Il alla voir le roi Charles et le duc d'York, mais bien qu'ils fussent heureux de revoir leur ancien ami, ils pensaient tous deux désormais que les troubles qui assaillaient leur gouvernement étaient dus en grande partie au parti religieux d'Icide et que les Quakers figuraient parmi les principaux de ces dissides. Lorsqu'il arriva en Angleterre, Stephen Crisp s'empressa de l'informer des propos qui couraient parmi les Quakers, qu'il avait cautionné des opérations militaires en Pennsylvanie, devenait très riche, avait privé les Suédois de leurs terres, et d'autres histoires qui font toujours la joie des commères des deux sexes. C'est un signe que la foi Quaker se détériorait déjà, car de tels ragots au sujet d'un autre ami n'auraient jamais été tolérés au premier temps. Des affaires plus importantes réclamaient son attention. Il trouva les Quakers aussi persécutés par les lois que jamais. Il parla au roi et au duc pour ne trouver que des hommes aigres et sévères. Il croyait que l'opposition qui inquiétait leur gouvernement venait de dissides de toutes sortes, et il ferait céder ces gens-là ou les briserait. Dans ces circonstances, Penn se retrouva dans une position étrange. Un jour, je fus bien reçu à la cour comme propriétaire et gouverneur d'une province de la couronne, et le lendemain arrêté à une réunion par Hilton et Collingwood, et le troisième harcelé et dénoncé pour avoir rencontré les hommes du parti Whig. Lorsque William Penn quitta la Pennsylvanie à l'automne 1684, il s'attendait à y retourner avec sa femme et sa famille dès qu'il pourrait obtenir du roi et des personnes concernées un règlement définitif de la ligne frontière entre sa province et celle de Lord Baltimore. Mais durant l'hiver de cette année-là, Charles y mourut. Rien n'avait été efficacement réglé sur la question avant cet événement, et par conséquent, le gouverneur de Pennsylvanie fut contraint de rester et de guetter une occasion d'obtenir cette décision. Dans une lettre de Gulielma Penn à Margaret Fox, elle exprima son désir de rejoindre son mari en Amérique, et elle semblait très anxieuse d'exaucer ses vœux. Vivre à Philadelphie, sa propre ville, lieu de naissance et foyer de la liberté religieuse, le beau idéal de sa propre création, l'endroit sur terre entre tous où se concentraient ses plus brillantes espérances, fut du commencement à la fin le désir de William Penn. Il dit dans une lettre à Thomas Lloyd, datée du 16 du 1er mois 1685, « Entretenez le cœur et l'amour du peuple. J'espère être avec eux l'automne prochain, si le Seigneur ne l'empêche. Je languis d'être avec vous, aucune tentation ne prévaut pour me fixer ici. Certes, rien ne pouvait le fixer, mais bien des choses pouvaient le retarder. L'automne vint et passa, mais aucun règlement de frontière ne fut obtenu. » Encore écrivant à la Pennsylvanie, il dit « Nous allons tous bien par la miséricorde du Seigneur et nous languissons d'être avec vous, surtout les enfants. William Penn et sa femme avaient systématiquement réduit les dépenses de leur foyer afin que la plus grande part possible de leurs revenus privés puisse être affectée aux dépenses liées à l'implantation d'une nouvelle colonie et à l'établissement d'une nouvelle ville. La plupart des colons étaient des travailleurs capables, d'autres emportaient avec eux des biens considérables, si bien que le gouverneur ne calculait pas que la sollicitation de sa bourse se prolongerait aussi longtemps qu'elle le fit en fin de compte. Sa nature était si généreuse, si désintéressée, que tandis que son attention était absorbée par des projets pour l'accueil et la prospérité des colons, il était porté à oublier qu'une grande partie de ce qu'il dépensait ne lui serait jamais rendue. Le sens de la justice des corps constitués, composés de colons de toute croyance et de toute condition, n'était pas toujours fiable en son absence, et il en eut parfois douloureusement conscience. Il protesta lorsque chaque navire de retour apportait appel sur appel d'argent, facture sur facture à payer par le gouverneur. Enfin, en 1686, il ordonna péremptoirement qu'on ne tirât plus sur lui un seul penny, étant alors, comme il le déclara, en perte de 5000 livres pour leur compte, et aucune ressource, aucun sen ne lui parvenant pour l'aider à apurer cela. Écrivant à son agent, il dit « Si je ne puis être approvisionné, je résous de tourner une nouvelle page. Il n'est rien au monde que mon âme désire plus, après la vie de ma chère famille, que de revoir la pauvre Pennsylvanie, et ma femme s'est résignée à partir. Mais il s'écoula longtemps avant que la question de la frontière fût même partiellement réglée. Lord Baltimore, lui-même catholique romain, avec de nombreux amis à la cour, était déterminé à ne pas céder aux propositions de William Penn, tandis que ce dernier avait trop conscience de l'importance d'un règlement pour la paix des colonies pour laisser la question indéterminée. Entre-temps, d'autres affaires de grand intérêt réclamaient son attention. À la mort du roi défunt, 1400 Quakers étaient détenus dans les prisons d'Angleterre pour cause de conscience. Pour obtenir leur libération, il se donna sans réserve. Mais une année entière s'écoula avant leur remis en liberté, puis, par proclamation royale, les portes des prisons furent ouvertes, et tous ceux qui étaient détenus à cause de leur religion purent sortir comme des hommes libres. Ce n'était pas seulement pour les membres de sa propre société que Penn intervenait afin de faire supprimer les griefs qu'il était au pouvoir du roi de prévenir. La suppression de toute mesure oppressive était pour lui un plaisir absolu autant qu'une affaire de conscience, quels que fussent les souffrants. Possédant davantage la confiance du roi Jacques que quiconque en dehors du cercle romain, et plus que la plupart de ceux qui s'y trouvaient, il obtint, par son intercession, miséricorde ou justice pour bien des suppliants. C'est contre cette partie de la carrière de Penn que feu Lord Macaulay dirigea ces calomnies qui ont été si habilement réfutées par Paget, Forster, Dixon, Janet et d'autres. Le poète Whittier fait allusion à ce sujet avec sa magnanimité habituelle dans les vers suivants, comme vainement il s'efforça de souiller par le blâme le buste blanc de Penn, dans la niche de sa renommée. La volonté propre se blesse elle-même, la perversité est aveugle, sur lui retomba la tâche destinée au Quake, pour l'amour de son père loyal qui l'a précédé, pour l'amour de la chère mère Quake qui l'a porté, pour l'amour de ses dons et des œuvres qui lui survivent, et de ses vaillantes paroles pour la liberté, nous lui pardonnons volontiers. Gerard Crowes dit que William Penn était l'unique protecteur des Quakers à la cour, et sur lui étaient fixés les yeux haineux de ses ennemis. Le roi l'aimait comme un ami singulier et tout entier, et souvent l'honorait de sa compagnie en privé, et cela non pas une mais plusieurs heures d'affilée, retardant l'audience des meilleurs de ses pairs, qui attendaient en même temps d'être reçus. Cette amitié, pour Penn, fut le trait le plus lumineux de la vie de ce monarque infortuné. Mais, bien entendu, une telle faveur apportait à son bénéficiaire l'envie invétérée des courtisans. À mesure que les mesures du roi et sa religion devenaient de plus en plus odieuses à la nation, les oreilles du peuple étaient ouvertes à toute rumeur malveillante qu'on pouvait inventer contre ce qu'il favorisait. On déclara que Penn n'était pas seulement papiste, mais un jésuite déguisé. Conscient de son innocence, la victime de ces calomnies fut lente à les considérer autrement que comme des diffamations absurdes auxquelles personne désirant connaître la vérité ne croirait. En quittant la Pennsylvanie, il avait négligé d'emporter avec lui les papiers les plus importants du dossier de frontière, ou plutôt, il avait chargé l'un de ses serviteurs de les apporter et négligé de s'assurer qu'il le fit avant d'embarquer. Il écrivit à ce sujet une lettre très courroucée, car le retard de plusieurs mois à envoyer au-delà de l'océan ses papiers était à la fois exaspérant et dangereux. Entre-temps, il se consola en rédigeant des instructions pour améliorer sa demeure de campagne, Pensbury, qu'il avait pris tant de plaisir à établir dans la province. Il prenait grand plaisir à expédier des semences à Ralph, le jardinier, et à écrire toutes sortes de directives à son intendant, James Harrison, qu'il avait laissé responsable du domaine. Entre autres choses, il lui envoya du vin et de la bière, une partie à vendre pour son compte et le reste à entreposer à Pensbury afin qu'il gagne en qualité avec l'âge. Pour une activité publique sérieuse, il se remit à son vieux sujet, la liberté de conscience. Il ne servait à rien d'argumenter ou de lutter pour une liberté générale avec un gouvernement d'une humeur si morose. « Je cherchais donc, dit-il, quelques cas saignants, ce qui n'était pas difficile à faire. Il s'envoie particulièrement à un, le cas de Richard Vickery, un homme très paisible, condamné à mort pour sa religion, pour avoir refusé de prêter serment et pour avoir enfreint des statuts destinés à réprimer les dicides. » Penn fit appel en sa faveur auprès du duc et le duc auprès du roi, et Penn réussit. Vickery fut gracié. Penn raconte qu'il devait procéder prudemment dans les affaires publiques, de peur qu'en offensant le gouvernement, il ne nuise à son dossier contre Lord Baltimore. Mais il alla jusqu'à rédiger un argument pour montrer que, dans la violence des ardeurs partisanes et des factions en lesquelles le royaume était presque également divisé, la couronne ne devait satisfaire aucun des partis extrêmes, mais gouverner sagement sur tous. Cet argument, il le présenta au roi sous forme manuscrite, car nous dit-il, les temps étaient trop figés et trop rudes pour l'imprimer, et il devait en effet être bien rude si Penn ne voulait pas imprimer ses opinions. Durant l'hiver 1684-85, Charles y mourut d'une attaque d'apoplexie, comme la plupart des historiens nous le disent. Mais l'évêque Burney a toujours tenu à croire qu'il avait été empoisonné par les jésuites parce qu'il était sur le point de se détacher d'eux et de permettre certaines réformes libérales. Nous ne pouvons cependant pas discuter ici les intéressantes preuves de l'évêque sur ce sujet. Le roi festif et insouciant était mort, et son frère, le duc d'York, catholique romain, monta sur le trône sous le nom de Jacques Yi. Penn écrivit à Thomas Lloyd en Pennsylvanie un récit de ces événements et de la manière dont il espérait retourner dans sa colonie à l'automne. Avec sur le trône, son ami particulier et l'ami de son père, le duc d'York, Penn se trouvait dans une position plus forte et plus influente que jamais. Il pouvait désormais s'adresser directement à la couronne pour obtenir des faveurs et être assez assuré du succès. Mais il y avait dans cette intimité et cette réussite, comme nous le verrons bientôt, un grand danger. Jacques Yi n'était nullement disposé à tenir son romanisme secret, comme on avait pensé que son frère l'avait fait. Toute sa famille assistait ouvertement à la messe, et lui-même commença à faire avancer la cause de sa religion en permettant aux jésuites de construire un collège à Londres. Il envoya un ambassadeur à Rome et en reçut un du pape. Combien de temps le peuple anglais, qui redoutait le pape et sa religion plus qu'il ne redoutait la France ou la peste, supporterait-il un tel roi ? Et que deviendrait le Quaker, déjà soupçonné de jésuitisme, qui était son favori. Mais Penn n'était guère habitué à calculer ce genre de risques, et l'on voit facilement comment, au début, il fut amené à entretenir des relations plus étroites avec Jacques. Il attendait de lui la liberté religieuse et un grand soulagement pour les Quakers. Jacques le promit, et parla si magnifiquement de liberté qu'il semblait faire honte aux protestants et aux Whigs. En l'espace d'un an environ, il tint parole. Les Quakers lui avaient envoyé une pétition montrant que 1300 des leurs étaient alors en prison et que, durant les 5 dernières années, des centaines d'entre eux étaient morts des rigueurs de l'emprisonnement. En moins d'un an, par une proclamation du roi Jacques, ils furent tous remis en liberté, avec tous les autres dicides, ainsi qu'un grand nombre de catholiques romains, emprisonnés pour leur religion. Nous ne sommes pas informés du nombre exact de ces prisonniers à cette époque, mais comme il y avait environ 1300 Quakers, il devait y en avoir autant provenant d'autres sectes, de sorte que l'on peut dire qu'un nombre probable de plusieurs milliers sortirent en foule des pestilentielles maisons d'infection où ils avaient été enfermés, et que des pères et des frères, et même des épouses et des mères, furent rendus à leur famille. C'était un état de la société que nous comprenons à peine aujourd'hui, un tel élargissement de prisonniers, restés incarcérés pendant plusieurs années pour la seule raison de leur religion. Il y eut de grandes réjouissances dans toute l'Angleterre, surtout parmi les Quakers, qui, à leur prochaine réunion annuelle à Londres, virent les visages d'amis précieux, dont certains, selon leur historien Gough, avaient été en prison 12 ou 15 ans et davantage. Note de l'éditeur du site, assurément, cela suffisait à peine pour risquer d'être accusé injustement d'être un jésuite, ou, comme il le fut bien plus tard, accusé par ses compagnons Quakers d'être trop impliqué dans la politique, ce que la politique Quaker avait longtemps consisté à éviter. Nous devons nous souvenir que George Fox était encore vivant à cette époque, souvent à Londres, et si Penn avait contrevenu à la volonté du Seigneur, Fox se serait empressé de lui dire. Nous pouvons supposer que le service rendu par Penn, en tant que confide du roi, pour soulager les souffrances des Quakers, était digne aux yeux du Seigneur. Nous devons aussi nous rappeler que Penn aurait préféré être en Pennsylvanie, comme il l'a déclaré à maintes reprises, son service fut un sacrifice, certes pas pour son propre profit. Tandis qu'il s'employait, par son influence auprès du roi, à soulager les souffrances des Quakers et d'autres peuples opprimés, ses gestionnaires en Pennsylvanie travaillaient lentement à sa ruine financière au moyen d'achats dénués de sens. Aussi étrange que cela puisse paraître, il existait une véritable intimité entre Penn, franc et direct, et le roi, rusé et double. Gerard Cross, l'historien des Quakers, nous a décrit l'intimité de Penn avec le roi. William Penn était grandement en faveur auprès du roi, unique protecteur du Quaker à la cour, sur lequel se fixaient les yeux haineux de ses ennemis. Le roi l'aimait comme un ami singulier et tout entier, et lui confiait maints secrets et conseils. Il l'honorait souvent de sa compagnie en privé, s'entretenant avec lui de diverses affaires, et cela non pas une, mais de longues heures, retardant d'entendre le meilleur de ses pairs qui, dans le même temps, attendaient audience. L'un d'eux, envieux et impatient du retard, et le prenant pour un affront de voir l'autre plus considéré que lui, osa prendre la liberté de dire à sa majesté que, lorsqu'il rencontrait Penn, il faisait peu de cas de sa noblesse. Le roi ne fit d'autre réponse que ceci, Penn parlait toujours ingénume sans détour, et il l'écoutait volontiers. C.C. General History of the Quakers, p. 106. Mais il survint une chose horrible qui, pourrait-on supposer, aurait mis Penn à l'épreuve au plus haut point. Le jeune duc de Monmouth, séduisant et accompli, mais fils illégitime de Charles Yi, tenta un coup de main pour s'emparer du trône, s'appuyant sur sa popularité auprès du peuple, qui était grande et lui assurait de nombreux partisans protestants. Son insurrection fut réprimée, et un terrible massacre fut commis parmi ceux qui l'avaient aidé ou même avaient passivement acquiescé à sa rébellion. Le juge Jeffrey, dont nous avons tant lu et que Macaulay décrit avec une telle vivacité, parcourait le pays en condamnant à mort avec la délectation d'un démon, beuglant des malédictions à ses victimes. Bientôt leurs têtes sanglantes et leurs membres dépecés ornaient presque chaque village des comtés de l'Ouest, près de l'endroit où Monmouth avait débarqué, spectacle choquant pour des yeux modernes, mais que les hommes et même les femmes de cette époque pouvaient contempler avec une indifférence relative. On pourrait supposer qu'une vengeance aussi cruelle et massive aurait ébranlé l'attachement de Penn pour le roi, mais il n'en fut rien. Le roi, dit-il, était fort à plaindre, lui que le caractère impétueux et cruel de Jeffrey précipitait dans cette effusion de sang. Il écrit au sujet de ces événements à son intendant de Pensbury d'une manière factuelle, comme les hommes écrivaient de telles choses en ces temps-là, car alors personne ne parlait de cruauté avec l'émotion et l'horreur que l'on y met aujourd'hui. Environ 300 pendus dans de nombreuses villes de l'Ouest, environ 1000 à déporter envoyés dans les colonies des Caraïbes comme esclaves. J'en ai supplié 20 au roi, le Col, Holm, le jeune, et les deux Hewlings, Locke et Hicks, ministres, ont été exécutés. Il y a chaque jour une inquisition contre ceux qui ont été mêlés au dernier complot. Certains meurent en niant, comme l'échevin Cornish, d'autres en confessant mais en se justifiant. Une femme, une certaine Gone de Wappen de Doct, connaissance de Moore, a été brûlée le même jour à Tyburn pour haute trahison, pour avoir caché un homme de l'armée de Monmouth, et l'homme sauvé a témoigné contre elle. Elle est morte calmement et sans peur, interprétant la cause de sa mort comme la cause de Dieu. Beaucoup d'autres à pendre, grands et petits. C'est un jour où il faut être sage. En disant que c'était un jour où il fallait être sage, Penn voulait probablement dire que, dans un tel tumulte, les Quakers feraient mieux de se tenir à l'écart, de rester tranquilles et prudents, et d'obtenir le soulagement qu'ils pourraient. Il faut remarquer que, parmi ceux à déporter, il en implora 20 au roi, et ceux-ci, suppose-t-on, il les envoya en Pennsylvanie. Cela les sauva du sort pire d'une colonie pénitentiaire. Et pendant ce temps, lui-même usa de toute son influence pour protéger ceux qui tombaient sous le soupçon de déloyauté envers la couronne. Penn assista à l'exécution de deux des condamnés. Il faut toutefois reconnaître que Penn, en devenant courtisan et en s'associant aux flagorneurs et aux conseillers corrompus qui, alors, encombraient la cour, courait un grand risque d'être confondu avec eux et accusé de leurs crimes. Il était lui-même un intercesseur pour obtenir des grâces, et en obtint beaucoup. Mais comme plusieurs sources nous assurent qu'il ne recevait aucun paiement, on ne peut le ranger parmi les courtiers en pardon, dont il devait pourtant en voir souvent à la cour. Cela était néanmoins conforme à ses principes de mépriser de tels risques. Il constata qu'il avait de l'influence sur le roi, et il était résolu à l'employer pour aider les Quakers et tous ceux qui souffraient de la tyrannie de l'époque. Mais sur un point, il fut très aveugle, peut-être délibérément aveugle, quant à l'état des choses. Dans une lettre à son intendant de Pensbury, il montre qu'il était parfaitement conscient de ce que faisaient les catholiques romains dans d'autres pays. Il paraît presque incroyable qu'il ne se rendît pas compte de ce qu'il soutiendrait en soutenant un roi comme Jacques, car il écrivit ce qui suit au sujet du traitement catholique des protestants en France. En France, il ne reste plus une seule assemblée de protestants, ils les forcent tous, en ne les laissant pas dormir, à se conformer, ils utilisent des tambours ou jettent de l'eau sur les somnolents jusqu'à ce qu'ils se soumettent ou deviennent fous. Ceux qui fuient et sont pris sont exécutés ou envoyés aux galères ramées. Croyez-moi, c'est un jour extraordinaire, tel qu'on n'en a pas vu depuis des générations. Lisez ceci à des amis de poids et à des magistrats, en privé. D'après la dernière injonction, il semblerait qu'il ne voulût pas que cette lettre fût rendue publique et revint en Angleterre pour être lue à la cour. Il se trouvait dans une position délicate, son affaire de frontière était encore pendante devant le conseil privé, il portait le fardeau d'obtenir un soulagement pour les gens de sa foi, et il était contraint de l'obtenir d'une source telle que Jacques Y. Quelqu'un écrivit des vers encensant le roi et le papisme et les signa des initiales de peine, une contrefaçon. C'était une mesquinerie, mais dans l'excitation ambiante, cela contribua à répandre le soupçon qu'il était jésuite. Il dut rédiger une longue déclaration pour nier en être l'auteur et neutraliser l'effet de ses vers. À peu près au même moment, il découvrit que le D.R. Tillotson, plus tard archevêque de Canterbury, rapportait qu'il correspondait avec les jésuites à Rome, et il dut écrire plusieurs lettres pour détromper Tillotson. Mais si certains étaient enclins à attaquer sa réputation à cause de son intimité avec le roi, d'autres, pour la même raison, recherchaient son aide. Il devint rapidement un courtisan très actif et influent, et eut bientôt dans ce domaine autant d'affaires qu'il pouvait en gérer. De nos jours, le gouvernement britannique est dirigé par les membres du cabinet, ou le ministère, est divisé en grands départements organisés de façon permanente. Ceux qui ont des faveurs à demander ou des revendications à faire valoir s'adressent aux responsables de ces départements ou à des commissions parlementaires. Mais au temps de Penn, rien de ce système n'existait. Le gouvernement, par ministère, n'avait pas encore été développé sous sa forme actuelle, et le Parlement n'était pas aussi important qu'il l'est aujourd'hui. Le roi était la source de toutes les faveurs et l'autorité qui permettait l'acceptation des demandes. Il fallait d'abord obtenir son assentiment avant que les rouages des départements puissent se mettre en mouvement. Ainsi les courtisans, les hommes dont les manières, les talents, la sagacité politique ou l'influence sur des sectes ou des partis plaisaient le plus au roi, devinrent des intermédiaires ou des avoués et des agents pour faire avancer les affaires de la foule de solliciteurs. C'était une activité, mais elle se menait d'une manière ambulante, aussi agréablement que possible, de façon à ne pas paraître une affaire, mais une part de la faveur gracieuse ou du divertissement de Sa Majesté. À en juger par le journal de Pepys et d'autres ouvrages, les courtisans conduisaient nombre de leurs affaires, recueillaient informations et commérages en allant et venant les uns avec les autres, ou avec leurs clients, dans les jardins ou les couloirs de Whitehall. Ils voyaient le roi comme ils le pouvaient, parfois lorsqu'il s'habillait le matin, ce qui était en réalité le moment préféré de Charles Yee pour recevoir des visiteurs. Parti V de Penn, le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.